Dans le grand entretien ce matin, on retourne en Afghanistan. Les Américains à peine partis, les talibans reviennent. 20 ans de guerre pour un retour à la case départ. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin. Vos questions sont les bienvenues, chers auditeurs. 01 45 24 7000. Avec nous en studio, Solène Chalvon-Fioriti. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue. Vous avez vécu en Afghanistan. Vous y étiez encore il y a 3 semaines. Vous êtes nommée pour le prix Bayeux des correspondants de guerre pour votre reportage « Vivre en pays taliban » diffusé en juin dernier sur Arte et que vous avez tourné avec Margot Ben. À nos côtés également, Elie Tannenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de l'ouvrage La guerre de 20 ans, coécrit avec Marc Ecker aux éditions Robert Laffont. Ça fait des mois que les Afghans se préparent à un retour des talibans. Malgré tout, il y a comme un effet de sidération. C'est allé encore plus vite que ce qu'on aurait pu imaginer, d'où la panique hier dans Kaboul. Les dirigeants talibans ont demandé à leurs combattants d'éviter la violence, de les laisser partir pour ceux qui le souhaitaient. Est-ce que ça se vérifie pour l'instant, Solène Chalvon-Fioriti?
Écoutez, là, hier, tout le monde a un peu, je crois, retenu son souffle en espérant que le pire n'advienne pas. Et d'ailleurs, le pire, si on considère que ce sont les effusions de sang, n'est pas advenu. Hier, donc, les gens racontaient des tirs, à côté de l'aéroport d'ailleurs, notamment. Les hélicoptères des Américains qui font des allers-retours permanents entre l'ambassade et l'aéroport, mais sinon les gens décrivent plutôt un Kaboul complètement vide et vidé, avec des tanks, des checkpoints qui sont ou alors vidés de toutes les forces de sécurité afghanes ou alors qui sont repris par les talibans. Donc c'est dans cette espèce de désert qui a comme ça duré plusieurs heures que les gens ont essayé de se diriger vers l'aéroport ou de se diriger vers les frontières, et puis ensuite c'est devenu la cacophonie. Enfin, on a tous vu les images. A priori, il y a une femme qui a perdu la vie dans l'aéroport. Quand vous regardez les images, les vidéos, en fait, évidemment, il n'y a plus un flic, il n'y a plus un soldat afghan. C'est une cohue généralisée avec des gens qui essayent de monter dans des avions désespérément, dans lesquels d'ailleurs ils ne montent pas, puisque là, ce sont essentiellement des avions militaires.
Oui, à tel point d'ailleurs que l'armée américaine a dû tirer en l'air pour évacuer la foule sur le tarmac. Elie Tannenbaum, on a l'impression que la coalition internationale, les Américains en premier, eux-mêmes, ont été pris de court par cette avancée fulgurante.
Oui, absolument. Si vous voulez, tout ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan, d'une certaine manière, avait été prévu, mais jamais au rythme auquel c'est arrivé. C'est-à-dire que quand l'accord de Doha a été signé il y a un an et demi maintenant, quand Joe Biden a annoncé le 14 avril dernier qu'il retirait les troupes américaines, personne, finalement, ne se faisait d'illusions sur la capacité du régime à long terme à tenir seul son soutien militaire international et même financier et politique, évidemment. Mais simplement, toutes les analyses des services de renseignement américains notamment, tablaient sur 6 mois, même 18 mois, sur la capacité du régime à tenir pendant un certain temps. Et finalement, et aussi sur la manière dont le mouvement des talibans lui-même se tiendrait à un certain nombre d'engagements qu'ils avaient pris, tout simplement parce que sur le papier ils avaient d'une certaine manière gagné et qu'ils n'avaient plus rien à gagner dans la perspective des Américains à accélérer le tempo. Sauf que ça, c'était sans doute méconnaître le mouvement des talibans lui-même, les courants politiques qui voulaient bien marquer l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un retrait négocié, mais d'une victoire, et d'une victoire militaire sur le terrain par les talibans. Et donc, ils ont souhaité bousculer en permanence l'agenda qui avait été fixé pour bien montrer que c'était leur choix et que c'était selon le rythme que eux cherchaient à imposer à la communauté internationale.
Le président Ashraf Ghani a quitté le pays. Les talibans ont gagné, il écrit sur sa page Facebook. On a vu aussi sur les réseaux ces combattants talibans, barbus, armés, dans le palais présidentiel. Solène Chalvon-Fioriti, la bataille de Kaboul n'a pas lieu donc.
Ben non, la bataille de Kaboul pour l'instant, la bataille de Kaboul n'a pas eu lieu, puisqu'en fait cette prise de pouvoir, elle a été extrêmement rapide. Ne soyons pas trop optimistes non plus, puisque là, la situation a quand même dégénéré ces dernières heures. Nous, on a des collègues, des confrères, des différents journalistes afghans, et surtout, parce que j'espère qu'on va vraiment parler des Afghans, des gens qui se pressent pour essayer de fuir, des gens qui n'ont pas eu de visa, des gens qui se battent depuis 6 mois pour sauver leur famille sans être entendus. Pour beaucoup, demander un visa en Afghanistan, c'était déjà passé par le Pakistan, qui opère un premier filtre, puisque beaucoup d'ambassades avaient délocalisé leur consulat au Pakistan. Donc vous avez l'avez déjà, vous devez passer le visa pakistanais pour ensuite espérer rencontrer des ambassades européennes qui, de toute façon, des visas en donnaient très peu et au compte-gouttes. Donc c'est là-dessus maintenant, nous, en fait, qu'il faut qu'on soit très vigilants. Il y a plusieurs ambassadeurs qui ont expliqué ces dernières heures, comme l'ambassadeur britannique qui resterait à l'aéroport pour donner des visas. Il va falloir vraiment regarder ça de très près, être sûr que l'aéroport peut devenir une zone refuge dans laquelle les gens... et pour l'instant, c'est pas ce qui est en train d'arriver, mais il faut espérer, puisque les Américains sont toujours en contrôle, que ce soit une forme d'enclave. Il va falloir évacuer les gens qui ont des visas. D'abord, parce qu'il y a plein de gens qui ont des visas et qui n'arrivent pas à partir et qui sont des gens extrêmement menacés. Ne nous racontons pas d'histoire non plus. Les talibans, ils ont des cibles très identifiées. On a même des noms facilement. Donc, il y a des gens qui ont des visas, et puis il y a des gens qui n'ont pas eu de visa pour des raisons par ailleurs complètement folle. Donc il va falloir absolument s'occuper de ces gens, se préparer à en accueillir et faire en sorte qu'ils soient protégés dans les jours à venir.
Edith Tenenbaum, là on ne parle pas seulement des ressortissants que les Américains, que les Anglais, que les Français sont en train d'évacuer là depuis hier, on parle aussi des Afghans qui ont travaillé pour la coalition.
Absolument, et ce sont ceux qui sont le plus en danger d'une certaine manière.
Combien sont-ils? On a une estimation.
On a parlé de dizaines de milliers, on va dire, de travailleurs afghans qui ont coopéré directement à un moment ou à un autre au cours de ces 20 années avec la coalition internationale. Et ensuite, si vous comptez les familles et puis les travailleurs indirects et puis ceux qui, sans pour autant avoir travaillé avec la coalition internationale, se sont positionnés par leur choix professionnel, par leur position personnelle dans leur vie, dans tout un tas de moments où dans une vie, vous faites des choix qui les a positionnés, on va dire, en marge, voire en opposant potentiel au mouvement. Et ce sont évidemment ces gens-là, tous les relais d'influence qui ont été très très étroitement identifiés effectivement par les talibans, non seulement à Kaboul, mais également dans les villes de province qui sont tombées toutes dans les dernières semaines. Et évidemment, si on veut savoir ce qui risque de se passer dès aujourd'hui à Kaboul, il faut regarder ce qui se passe depuis quelques semaines à Kandahar, à Herat, dans les premières villes qui sont tombées.
Les talibans tentent d'afficher une image un peu modérée. Ils disent que quand ils vont diriger le pays, ils promettent de ne pas se venger. Ils promettent aussi respecter les droits humains, commencer par ceux des femmes. C'est de la com, ça, Solvay.
Bien sûr, c'est de la com. D'ailleurs, cette com, c'est une com très intéressante à laquelle, donc, il y a quelques semaines, enfin, j'exagère, il y a quelques mois à Doha, c'est tout juste, si on n'entendait pas parler de women empowerment de la part du haut commandement
des
talibans.
Des femmes au pouvoir.
Voilà, des femmes au pouvoir. Ensuite, là, cette année, on a eu un gouvernement, il promet hier on a eu le droit à un gouvernement inclusif. Oui. Enfin, il faut redescendre. On sait, de toute façon, nous-mêmes journalistes, on a pu aller chez eux parce qu'ils sont organisés sur le terrain de la communication, très bien organisés même. C'est plus facile pour moi de faire un embed avec les talibans que de suivre l'armée afghane. Faut comprendre. Et en plus, évidemment, ils ont été longtemps avec les journalistes dans une opération de séduction pour essayer de montrer que dans leur terrain, ça pouvait fonctionner.
Donc dans ces zones qui sont tombées là. Vous y êtes allé, vous comment ça se passe?
Vous voulez dire dans les zones
qui sont sous les mains des talibans depuis maintenant plusieurs semaines? On a un exemple de
alors
comment
on
n'a
pas pu encore se rendre dans des zones qui ont été prises récemment puisque c'est beaucoup trop dangereux. Et de toute façon, la sortir de Kaboul, c'est une très très mauvaise idée depuis quand même quelques semaines. Ce qui est sûr, c'est que dans les terrains qu'ils contrôlent depuis des années, les talibans, ils ont un système, ce qu'on a appelé un état parallèle, qui est assez bien organisé et surtout bien structuré du côté de la justice. Ça, c'est quelque chose qui a été vérifié, qui a été documenté. Les talibans ont un système de justice qui peut être très bien compris dans les campagnes et qui a pu participer d'ailleurs à les faire accepter dans bien des zones.
Edith Tenenbaum, c'est le retour de la burqa, c'est le retour de la lapidation des femmes,
oui,
on les laisse à la maison, comment ça va se passer?
Le projet politique des talibans n'a pas fondamentalement changé depuis les années 90. Le principe d'un émirat islamique d'Afghanistan, d'ailleurs, qui a son drapeau, qui a toujours eu sa représentation, même quand elle était délocalisée au Pakistan, se maintient, et avec évidemment tout ce qui a pu choquer du côté occidental, avec les houdouds, les châtiments corporels, les mains coupées, ce que vous pouvez imaginer, même si la partie la plus violente a été un petit peu minorée sur ces derniers temps, parce que c'était un petit peu justement de la mauvaise publicité pour eux. En revanche, les éliminations ciblées, elles ont été accélérées au contraire. Le statut de la femme, effectivement, on a eu un certain nombre de messages contradictoires qui sont passés entre ce qui était adressé à l'international et ce qui se passait dans la réalité. Les écoles de filles, évidemment, vont être fermées. Mmh. Et je parle même pas de l'université ou du travail de ce point de vue-là, mais ce qui est véritablement important de comprendre, ce qui vient d'être dit, c'est que les talibans ont gagné par l'offre de gouvernance qu'ils avaient sur la population rurale d'abord. Comment ça va se passer dans les villes, c'est la vraie question aujourd'hui, mais c'était leur capacité à offrir un gouvernement fonctionnel, ce que ne parvenait pas à faire le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan depuis 20 ans.
Mmh. Solène Chalvon-Fioriti.
Oui, sur la question des femmes, en fait, parce que je rebondis sur ce que vous disiez, loin de moi, évidemment, l'idée de défendre les talibans, c'est les images d'hier à la... Voilà, dans le palais présidentiel, je pense, sont sidérantes pour énormément d'Afghans qui ont été formés depuis 20 ans, des archéologues, des universitaires, des professeurs. Tous ces gens, en fait, qui ont formé une classe moyenne, qui est un groupe social qui n'existait pas il y a 20 ans en Afghanistan et qui est vraiment un groupe social qui a existé, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, grâce à nous. Parce que cette économie, si vous voulez, qui est arrivée avec la coalition internationale, qui a participé à construire ces facs, cette fac américaine, ces instituts, ces programmes de développement, mais aussi à former des fonctionnaires qui sont des femmes flics, des femmes juges, toutes ces femmes qui se retrouvent aujourd'hui avec la double peine d'être des femmes et en plus des fonctionnaires, vous imaginez le sort qu'ils leur réservent. Donc notre responsabilité, elle est immense parce que nous avons produit ce modèle-là. Nous avons participé à rendre les villes beaucoup plus, évidemment, beaucoup plus proches de la modernité en aidant à la création de 300 médias et en créant toutes les choses que j'ai citées plus tôt. Donc, si vous voulez, ce qui est absolument cynique et terrible dans ce qui est en train d'arriver, c'est que quand on entend Joe Biden qui dit « on est arrivé, on a aidé la femme afghane à s'empowered, maintenant c'est à elle de se débrouiller, mais enfin, on a aidé la femme afghane à s'empowered dans un contexte afghan ». Dans la société afghane, qui est de toute façon une société extrêmement conservatrice, où il y a plein de gens qui ne sont pas talibans, plein de régions qui ne sont pas talibanes, mais qui ont la même idéologie. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est terrible, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, j'entends même sur les plateaux, oui, mais les talibans, il y a plein d'endroits qui ne sont pas talibans, et pourtant ils partagent cette idéologie, c'est une question de culture. Mais n'oublions pas que cette question de culture, elle est liée à quoi ? C'est parce qu'il y a plein de zones, depuis 20 ans, qui n'ont absolument pas été touchées par le développement. Comment vous voulez changer qu'entre votre référence et le mollah du village, qui n'a pas de télévision, qui n'a pas d'accès aux soins. C'est ça aussi qu'il faut rappeler.
Le président américain, vous en parliez, hein, assume complètement son choix d'avoir retiré ses troupes, hein, de mettre fin à cette guerre de 20 ans qui est quand même la plus longue qu'aient connue les États-Unis. Joe Biden dit « Une année ou 5 années de plus de présence n'aurait fait aucune différence quand l'armée afghane ne peut ou ne veut pas défendre son propre pays. » Elie Tannenbaum, c'est donc la faute du gouvernement, des gouvernants, des dirigeants de Kaboul.
Je pense qu'effectivement, il ne faut pas ôter aux Afghans, on a fait beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, mais ce qu'on appelle l'agency, c'est-à-dire leur capacité à agir sur leur propre pays, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité internationale qui est évidente et qu'il ne faut pas excuser, sur laquelle qu'il faut regarder en face. Mais évidemment, il y a eu tout un tas de responsables, parfois très hauts responsables afghans, qui ne se sont pas révélés à la hauteur de la tâche, de l'enjeu qu'on leur avait donné.
L'OTAN a donné de l'argent, a formé l'armée.
Des milliards de dollars qui ont été dépensés, sans doute très mal dépensés, qui ont provoqué beaucoup de corruption, sans doute beaucoup trop d'argent a été dépensé. Une quantité, si vous voulez, de devises que ne pouvait pas ingérer la société afghane, qui n'avait pas le tissu pour récupérer ça. Donc beaucoup d'argent est reparti presque immédiatement vers les États-Unis, vers l'Europe, à travers des sous-traitants qui étaient occidentaux. Mais peu importe. La réalité, c'est que vous avez évidemment une élite politique, militaire et même économique afghane qui a sa part de responsabilité dans la débâcle actuelle à laquelle on assiste, et ceux-là aussi doivent se regarder en face et se dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour sauver leur pays au moment où c'était d'une certaine manière possible.
Solène Chalvan-Fioriti, ces soldats finalement afghans qui étaient plus nombreux que les talibans, comment expliquer cette désertion, comment expliquer cette débâcle?
Ben, d'abord, il y a un travail de sape psychologique dont il faut qui remonte maintenant. Ça fait, j'ai presque envie de dire, des années en fait que l'armée afghane est extrêmement critiquée, qu'il y a un très grand décalage entre les soldats qui sont sur le terrain et les commandements et les généraux. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui est encore une fois très cynique dans le discours de Biden, c'est que lorsqu'il dit on a équipé, on a formé, on a très très mal formé, le poste de l'armée, c'est le poste le plus corrompu, avec la justice. D'ailleurs, je vous parlais de la justice tout à l'heure. On a été incapable, en fait, de créer ces institutions. Et donc, l'armée se retrouve aujourd'hui dans une position où les soldats n'ont pas envie de se battre. Ils voient, évidemment, de toute façon, il y a un effet psychologique. Hein. Vous voyez que les régions se réduisent les unes après les autres. Il y a un moment où, en fait, le combat ne se justifie plus. Et en plus, il y a beaucoup de ces soldats, de très nombreux de ces soldats, notamment sur le flanc Est, qui sont, en plus, pas payés depuis plus de 6 mois, ce qui, évidemment, n'est pas mentionné.
Vous avez à la fois des soldats qui n'ont pas été payés et puis des soldats qui ont été payés qui n'existent pas, des soldats fantômes. Et ça, ça a été fait depuis très longtemps pour gonfler les bataillons. Et évidemment, la différence, c'est le colonel ou c'est le général qui s'empoche la différence. Et puis, ça a été dit, c'est une armée qui a été créée comme auxiliaire d'armée occidentale.
C'est-à-dire qu'ils ne sont plus là, ces armées occidentales.
Voilà, qui n'a pas été construite pour fonctionner sans un appui international. Et c'est ça le problème, la manière dont on a pensé l'armée dès le début.
Elie Tenenbaum, Solène Chalvan-Fioriti, vous restez avec nous, on va faire un petit tour au standard. L'Afghanistan passionne nos auditeurs. Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Bonjour, Carole. Bonjour, bienvenue. Je crois que vous nous appelez de Lille.
Oui, bonjour de Lille. Donc, moi, je voulais savoir si les Américains aidaient médicalement, aidaient humainement les Afghans en raison de leur... parce que c'est eux qui ont créé cette situation terrible, cette situation de chaos meurtrier.
Merci Carole pour cette question. Donc, est-ce que les États-Unis vont prendre leurs responsabilités, hein, en clair, Elie Tenenbaum?
Est-ce qu'ils l'ont fait? Moi, ce que je comprends de la question, c'est est-ce que pendant 20 années, il y a eu une aide médicale notamment, mais aussi sociale et économique? Bon, dès la prise de la chute des talibans après 2001, les Américains ont décidé de sous-traiter à tout un tas de partenaires techniques et financiers, que ce soit les Européens, les Japonais, mais aussi une myriade d'ONG, on comptait plus de 2000 ONG actives dans le pays en 2002, tout ce qui était de l'ordre de la reconstruction, de l'assistance, etc. Et donc le gouvernement américain, d'une certaine manière, a refusé volontairement de s'impliquer dans tout ce qu'il considérait comme de la sécurité douce et ces enjeux-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui ont été faites. Il y a USAID, qui est donc l'agence de développement international américaine qui a dépensé beaucoup d'argent pour la construction de routes, d'hôpitaux, etc. Mais c'est vrai que les grands acteurs ont été des acteurs non gouvernementaux ou des acteurs éventuellement gouvernementaux tiers. Et d'ailleurs, la France a soutenu la construction d'un hôpital français à Kaboul qui était parmi les seuls aux standards internationaux dans le pays.
Alors aujourd'hui, hein, c'est Joe Biden envoie 5000 soldats pour justement rapatrier les ressortissants, mais aussi, dit-il, les civils afghans qui ont travaillé avec les États-Unis. On parle au total de près de 30 000 personnes. C'est plus un retrait, c'est une débâcle. Certains évoquent même la chute de Saïgon en 75. Solène Chalvan-Fioriti.
Ben, écoutez, d'abord, on va attendre de voir, hein, parce que il y a eu beaucoup d'annonces comme ça qui ont été faites sur la question des visas depuis, encore une fois, depuis plusieurs jours, presque plusieurs semaines. Le Canada s'est aussi joint à cet effort en disant qu'ils ouvriraient aux activistes, etc. Les Américains, là, promettent. J'attends de voir, parce qu'il y avait eu aussi des effets d'annonces comme ça il y a quelques semaines. Et en fait, quand les ambassades sont saturées, mais fatalement, vous attendez votre tour, et votre tour, il peut ne plus jamais arriver quand l'ambassade se délocalise, si vous voulez. Donc, attendons, mais regardons ça de très près, puisqu'encore une fois, nous avons une responsabilité très importante dans les visas, et il va falloir appuyer des gens qui risquent très 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 fort dans quelques semaines. Il y a déjà eu des revanches, il y a déjà eu des assassinats ciblés. Ils n'ont pas hésité à tuer des femmes journalistes, des femmes juges. D'ailleurs, pas forcément que les talibans, il faut aussi comprendre qu'il y a plein de comptes qui se règlent en ce moment. Qu'est-ce qui va se passer avec tous ces gens qui se réarment depuis des semaines et qui sont là avec leur pistolet entre les mains chez eux? Il va falloir être très très vigilant là-dessus et être sûr qu'on ne lâche pas des gens derrière nous, qu'en plus on a fait travailler, bien sûr.
Au standard, je crois que Patrick, qui nous appelle de Besançon, a un peu la même préoccupation que vous. Bonjour, bienvenue Patrick.
Oui, bonjour, j'ai exactement cette même préoccupation. Je voulais savoir si la France, enfin la diplomatie française et plus globalement européenne, compte faire quelque chose pour tous ceux qui ont aidé les Français, entre autres, et les Européens. En Afghanistan, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, et surtout le sort des femmes m'inquiète, les enfants m'inquiètent beaucoup. Voilà ce que je voulais
dire. Merci beaucoup. On entend votre question, votre préoccupation. La France s'active depuis hier pour rapatrier ses ressortissants dans l'urgence. On ne parle pas beaucoup de ces Afghans civils qui ont travaillé pour nous, Elie Tenenbaum.
On en parle un peu, en tout cas dans le petit milieu des gens qui s'intéressent à l'Afghanistan. Ça fait des années qu'on parle de la question des interprètes afghans qui ont travaillé avec l'armée française. L'armée française a été présente en Afghanistan entre 2001 et 2014, mais surtout dans la partie 2007-2012, dans la région de la Kapisa, en travaillant avec beaucoup d'Afghans. Il y a à peu près 1300 visas vraiment qui ont été accordés depuis 2014 sur ces partenaires afghans qui ont travaillé et qui sont aujourd'hui tous menacés de mort. C'est une toute petite proportion, évidemment, de ceux qui mériteraient le visa et qui devraient être protégés par la France. Il y a évidemment les demandeurs d'asile et tous les irréguliers afghans qu'on a aujourd'hui en France qui sont arrivés. C'est une autre situation. Mais oui, on en parle, on n'en parle pas assez. Et évidemment, pour l'instant, ce n'est qu'une toute petite proportion qui est concernée.
Retour au standard avec Gérard. Bonjour Gérard.
Oui, bonjour France Inter. D'abord, mon premier sentiment, je ne peux pas m'empêcher de l'exprimer, quel gâchis. Quel gâchis un homme, je pense, aux familles américaines qui ont perdu un des leurs. Et quel gâchis en argent. Maintenant, rapidement, mes deux questions. Premièrement, qui est derrière les talibans? Qui les finance? Qui les équipe? Et deuxièmement, je pense que pour que ça soit aussi que les talibans aient gagné aussi rapidement, une partie de la population partage leurs idées. Et je trouve vos interlocuteurs très indulgents vis-à-vis de l'armée afghane, qui n'ont pas défendu leurs valeurs, qui ne croient pas donc aux valeurs anti-taliban. Voilà.
Merci Gérard. On va peut-être que Solène Chalmon-Jouffier qui voulait lui répondre.
Sur la question des valeurs qui sont évoquées, c'est très difficile en fait. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que les valeurs des talibans aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? On sait qu'il y a une très grande séparation. Il y a deux discours. Il y a le discours de Doha, qui est un discours, j'ai envie de dire, le discours des lustres et des palais 5 étoiles, de gens qui sont partis au Qatar depuis longtemps et qui vivent quand même à l'heure de la modernité. Et il y a ensuite les commandants locaux, les petits chefs qui, eux, en fait, vraiment établissent leurs lois où qu'ils passent. Je vous donne un exemple parce que j'en reviens. À Bamiyan, donc, qui est le centre de l'Afghanistan, et évidemment, historiquement, cet endroit qui est connu du monde entier pour les Bouddhas qui se sont écroulés. Le haut commandement taliban à Doha a émis un communiqué un peu curieux, d'ailleurs, il y a quelques semaines, en disant « Attention au pillage, préservez l'héritage afghan », un discours quasi nationaliste, en fait, alors que ce sont eux-mêmes qui ont fait tomber les Bouddhas, aussi pour des raisons politiques d'ailleurs, bien plus que pour des raisons religieuses a priori 20 ans plus tôt. Mais aujourd'hui, alors qu'ils émettent ce communiqué, nous, quand on y était, il y a un commandant, un petit commandant, il faut le dire, mais qui est un des commandants, en fait, qui risque de prendre... qui est déjà, d'ailleurs, ma chronologie, qui est arrivée il y a deux jours. Et en fait, ce commandant, il a en interview, filmé à la BBC Perse, on va finir le taf, on va finir le boulot avec les Bouddhas. On va casser la falaise, puisque sur la falaise est inscrite l'empreinte des Bouddhas. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a deux discours en permanence.
Elie Tenenbaum, rapidement, Emmanuel Macron préside un conseil de défense ce midi. On doit en attendre quoi ?
Sans doute une accélération de l'opération qui vient d'être lancée militaire française de contribution à l'évacuation des ressortissants et sans doute d'autres ressortissants non français. Peut-être on peut l'espérer d'une partie.
L'heure est grave. On peut craindre que ça redevienne un terreau de l'islamisme mondial, du terrorisme mondial.
Ça c'est certain.
Très rapidement, je suis désolé.
C'est la vraie question. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est le lien persistant des talibans avec la mouvance djihadiste internationale et la menace que ce sanctuaire pourra représenter à l'avenir pour la sécurité régionale et internationale.
20 ans de guerre et retour à la case départ. Solène Chalmon-Fioriti, grand reporter, Elie Tenenbaum de l'IFRI, un grand, grand merci à tous les deux d'avoir été là ce matin avec nous.
France Inter.